un journal présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. L'hydroxychloroquine n'est plus autorisée en France pour soigner la Covid-19. Le gouvernement a tenu compte des dernières études sur l'inefficacité supposée du médicament. À Marseille, le professeur Didier Raoult n'entend pas renoncer à ce traitement qu'il défend avec une popularité grandissante. Dans ce journal, les explications de Margot Delpierre et l'analyse de Stéphane Robert. 750 milliards d'euros pour relancer l'économie européenne. La Commission de Bruxelles a présenté un plan qui combine des prêts remboursables et des subventions. Les précisions d'Angélique Bois. La relance sera-t-elle verte pour accélérer la transition écologique? C'est le sujet de notre rendez-vous hebdomadaire L'écho d'après avec Marie Viennot. L'inquiétude des partisans de la démocratie à Hong Kong. Le Parlement chinois doit voter demain une nouvelle loi sécuritaire. Le reportage sur place de Florence de Changy. Le gouvernement a donc tranché. L'hydroxychloroquine ne peut plus être utilisée en France pour traiter la Covid-19 à l'hôpital. En abrogeant le décret d'autorisation, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a tenu compte de l'avis défavorable du Haut Conseil de la Santé publique. La semaine dernière, la prestigieuse revue médicale The Lancet avait publié une étude pointant l'inefficacité et les risques de l'hydroxychloroquine contre le nouveau coronavirus. À Marseille, le professeur Didier Raoult continue à défendre le médicament malgré la décision du gouvernement. Margot Delpierre.
L'hydroxychloroquine n'est plus autorisée en France pour traiter la Covid-19, mais la liberté de prescription des médecins, elle, reste entière. Ce qui veut dire, selon le professeur Didier Raoult, qu'on n'a pas le droit de recommander ce traitement, mais que l'administrer à un malade de la Covid-19 n'est pas officiellement interdit. Le virologue assure qu'à Marseille, ce dérivé de la chloroquine utilisée contre le paludisme a, je cite, sauvé beaucoup de gens, et il balaie d'un revers de la main l'étude de la revue médicale The Lancet qu'il qualifie de foireuse. Cette dernière estime que l'hydroxychloroquine est inefficace contre la Covid-19, voire néfaste. L'IHU Méditerranée Infection, dirigé par le professeur Raoult, affirme qu'il continuera à traiter ses patients avec les traitements les plus adaptés. Près de 4000 personnes atteintes par la Covid-19 ont déjà été soignées dans cet institut hospitalo-universitaire. On peut donc continuer à prescrire l'hydroxychloroquine aux malades. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, y a répondu tout à l'heure en sortant du Conseil des ministres.
Il y a un cadre réglementaire qui définit la possibilité ou non de prescrire un médicament. Ce médicament, dans cette indication, comme d'autres médicaments, dans d'autres indications. Si un prescripteur s'affranchit des règles, il prend, entre guillemets, ses risques.
L'hydroxychloroquine fait partie des nombreux traitements testés depuis le début de l'épidémie, mais c'est certainement le plus discuté.
Margot Delpierre, merci. La polémique sur l'hydroxychloroquine dépasse le simple cadre médical. L'incroyable popularité de Didier Raoult dans une partie de l'opinion a fait de ce médicament un objet politique. On est pour ou contre le professeur Raoult, il n'y a pas de demi-mesure. Stéphane Robert, la figure du scientifique marseillais, s'est imposée dans le débat public.
Oui, pour s'en convaincre, il n'est qu'à écouter un extrait de l'interview que Didier Raoult a accordé à David Pujadas hier soir sur la chaîne de télévision LCI. Pujadas l'interroge sur l'étude réalisée par la revue médicale The Lancet montrant que l'hydroxychloroquine serait inefficace contre la Covid-19.
Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis, donc je vais essayer de vous le dire.
Mais à travers moi, c'est aux gens que vous vous adressez.
Non,
et qui se demandent pourquoi vous n'avez pas fait cette étude randomisée, comme on dit.
Non, détrompez-vous, les gens ils pensent comme moi, vous croyez qu'ils pensent comme vous, mais vous vous trompez. Vous voulez faire un sondage entre vous et moi? Vous voulez faire un sondage entre Véran et moi pour voir qui y croit? Vous voulez voir ce que c'est que la crédibilité? Faites-les, les sondages.
En France, les gens se posent la question.
Faites les sondages. Regardez-moi, je les ai, les sondages d'Odexa.
Ce que met en avant Didier Raoult, ce ne sont pas des faits scientifiquement prouvés. Il ne s'appuie pas sur des résultats ou des études tangibles et vérifiables. Non, ce qu'il met en avant, c'est sa crédibilité dans l'opinion. Et ce sont des sondages. C'est lui qu'on croit, dit-il, et pas les journalistes, pas les politiques, pas le gouvernement. Et il a sans doute en partie raison. On s'aperçoit dès lors que Didier Raoult est devenu beaucoup plus qu'un scientifique promoteur d'un médicament susceptible de soigner une maladie. Il est devenu une figure politique. Plusieurs éléments permettent d'esquisser une tentative d'explication à ce phénomène. Il y a d'abord le fait qu'avec la chloroquine, le professeur Raoult a donné une note d'espoir à un certain nombre de Français qui avaient envie de croire en un remède miracle. Ensuite, il y a sa personnalité. C'est un savant reconnu, iconoclaste, marseillais, pas parisien, qui a contredit avec brio un gouvernement représentatif précisément de l'élite parisienne et qui, au début du confinement, est apparu déconnecté et dépassé. Et donc, Très vite, il a incarné non seulement l'espoir face à la pandémie, mais aussi l'espoir d'une revanche du peuple contre les élites. Dès lors, Didier Raoult a réussi le tour de force de faire de la chloroquine une arme politique, devenant ainsi un personnage public.
Stéphane Robert, merci. Si la situation sanitaire le permet, le deuxième tour des élections municipales aura bien lieu le dimanche 28 juin prochain. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a confirmé la date ce matin à l'issue du Conseil des ministres. Et cet après-midi, le ministre de l'Intérieur devait faire le point avec les associations d'élus et les partis politiques. Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Une nouvelle phase de la campagne électorale va donc s'engager, un calendrier est fixé avec des aménagements possibles.
Nous avons un mois devant nous pour préparer les opérations de vote, explique le ministre de l'Intérieur, qui fixe la période du 29 mai au 2 juin pour déposer les listes, c'est-à-dire entre vendredi et mardi prochain. Le lundi 15 juin, marquant la date du début de la campagne officielle pour le second tour. Bien sûr, cette élection est conditionnée à l'évolution de l'épidémie. Deux projets de loi ont d'ailleurs été préparés au cas où le scrutin serait annulé et les deux tours reportés au mois de janvier 2021. C'est la réversibilité. L'un de ces projets de loi annule le premier tour des municipales pour les 5000 communes concernées. L'autre reporte d'un an les élections sénatoriales qui, rappelons-le, doivent avoir lieu au mois de septembre prochain. Nous nous préparons à toute éventualité, explique Christophe Castaner, qui se montre ouvert au vote par correspondance. Il en discute en ce moment même avec les associations d'élus, mais cela nécessitera une modification législative et le temps est compté. Le ministre évoque également la possibilité de prolonger l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à 20h, les préfets en décideront sur demande des maires, comme il étudie la possibilité de modifier les critères du vote par procuration, ce qui permettrait à un électeur d'avoir deux mandats contre un actuellement. Reste la question des réunions publiques. Le ministre ne ferme pas la porte. Tout dépendra de ce que décidera demain le Conseil de défense sur les rassemblements pour la deuxième phase du déconfinement.
Pierre Neveu, merci. La Cour d'appel de Paris a alourdi aujourd'hui les peines prononcées contre les époux Balkany en première instance. 5 ans de prison ferme pour Patrick et Balkany et 4 ans pour Isabelle. Ils sont condamnés pour blanchiment de fraude fiscale. La Cour n'a pas ordonné leur incarcération immédiate. Après 5 mois de détention provisoire, Patrick Balkany avait été libéré en février dernier pour raison de santé. La Commission européenne met 750 milliards d'euros sur la table pour relancer l'économie de l'UE, un plan présenté aujourd'hui à Bruxelles par sa présidente Ursula von der Leyen. Il y aura à la fois des prêts et des subventions non remboursables pour les pays bénéficiaires. Ce plan de relance doit encore être validé à l'unanimité par les États membres, Angélique Boin.
Dans les moments décisifs, l'Europe a toujours fait les bons choix, a déclaré la présidente en présentant son projet. Ce fonds de relance, qui sera intégré au budget européen, lui-même renforcé, devra servir au secteur impacté par la pandémie, mais aussi à accompagner la transition verte et numérique voulue par Bruxelles, à renforcer la santé ou soutenir l'emploi des jeunes. Une grande partie sera composée d'aides financières directes pour les États fragiles, des dons donc, et pas seulement des prêts, comme le veulent les 4 pays du Nord, baptisés les frugaux. Mais tout le monde profitera d'un marché unique revitalisé, a insisté Ursula von der Leyen.
Notre modèle unique, construit depuis 70 ans, fait face à un défi comme il n'en a jamais connu dans son histoire. Soit on fait cavalier seul en laissant à la traîne des pays et des peuples, soit on avance tous ensemble pour les prochaines générations.
Les 750 milliards d'euros seront empruntés et remboursés à partir de 2028. Une proposition habile, elle laisse le temps à la Commission de convaincre les États d'augmenter ses ressources propres, de futurs impôts européens, taxes carbone ou taxes numériques, qui éviteraient aux États d'avoir à rembourser les emprunts. L'idée n'est pas nouvelle, mais cette crise est l'occasion pour l'Union de faire un bond en avant, a expliqué la présidente de la Commission. La France et l'Allemagne en sont désormais convaincus, mais la négociation ne fait que commencer.
Angélique Boin, correspondante à Bruxelles. Alors, reste à savoir si ce plan de relance sera effectivement compatible avec la transition écologique défendue par la Commission européenne. La relance verte, c'est justement le thème aujourd'hui de l'écho d'après, notre rendez-vous hebdomadaire chaque mercredi à 18h. Faire plus vert, limiter nos émissions de gaz à effet de serre, décarboner l'économie. Toutes ces idées étaient déjà à l'agenda des politiques avant la crise sanitaire. La sortie de crise offre une occasion inédite de reposer la question. De quelle relance parle-t-on et à quoi faut-il renoncer, Marie Viennot ?
Les milliards mis sur la table en ce moment par l'Union européenne ou la France pour l'automobile, le tourisme et bientôt l'aéronautique offrent la possibilité d'orienter, voire contraindre, les entreprises privées vers des activités moins nocives pour l'environnement. Mais il y a un risque aussi de relancer à l'identique comme ce fut fait en 2008. Tous les responsables politiques assurent le contraire. 90 patrons ont publié début mai une tribune intitulée « Mettons l'environnement au cœur de la reprise économique ». Mais la suspicion d'une partie des associations, chercheurs et économistes engagés pour une économie durable reste. Alors comment balayer le doute en parlant des fins plutôt que des moyens, propose Florence Janicatrice, professeure d'économie à Lille.
Ce qui fâche, c'est à quelles conditions la relance. C'est ça qui devrait être mis en avant. Alors là, on voit bien que là, les dents peuvent grincer et que politiquement, il faut assumer le fait que sans doute, il y a un certain nombre de secteurs qui ne pourront pas repartir parce que, à l'aune de d'autres critères que celui de la croissance, critères social et critères environnemental, ils ne passent pas sous la toise. Et que donc, il faut envisager non pas un plan de relance, mais un plan de reconversion. C'est de la reconversion dont on a besoin. Si les secteurs d'activité sont trop polluants, ne sont pas bas carbone, eh bien, il faut que d'ici 10, 15 ans, ce soit des secteurs qui soient fermés. Si ce sont des activités qui sont organisées trop péniblement socialement, il faut que d'ici 10, 15 ans, ça soit fermé. Avec reconversion du personnel sur d'autres types d'activités. Alors évidemment, ça semble facile quand on est dans un bureau de penser les choses comme ça, mais si on ne le fait pas, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, il nous attend une crise climatique, crise d'une ampleur encore plus démesurée. Chaque moment de crise devrait être l'occasion de se reposer la question de ce qui doit être prioritaire.
Il y aurait même un moyen de financer cette reconversion professionnelle, poursuit la chercheuse, également coprésidente du Forum pour d'autres indicateurs de richesse.
Peut-être pourrait-on utiliser une partie de ce financement de chômage partiel à ce que les gens puissent être en formation et en reconversion. Il y a des tas de secteurs d'activité dans lesquels il y a des besoins sociaux extrêmement importants et je pense que l'idée de reconversion pour ça, elle est plus intéressante finalement que des croissances. Mais évidemment, il va falloir aussi que tout cela soit nourri d'une certaine forme de sobriété quand même.
S'il y a l'idée que dans cette crise, on pourra trouver les moyens d'éviter celle d'après, c'est aussi parce que le confinement a montré qu'il était possible de mettre l'économie sur pause pour des raisons sanitaires. C'était inimaginable auparavant. Si tout est arrêté, tout peut donc être remis en cause, infléchi, sélectionné, trié, écrit le philosophe Bruno Latour dans un article qui invite chacun de nous à dresser pour lui, puis en groupe, l'inventaire des activités suspendues dont il ne pourrait pas se passer et de celles qui pourraient ne pas reprendre, comme une réflexion personnelle et collective sur le monde d'après qui pourrait infuser utilement tous les plans de relance.
Marie Viennot, l'écho d'après, un rendez-vous à retrouver sur franceculture.fr et chaque mercredi dans notre journal de 18h. La situation reste tendue à Hong Kong où de nouveaux heurts ont éclaté ce matin entre les manifestants pro-démocratie et la police. Au moins 300 personnes ont été arrêtées pour rassemblement illégal. Les manifestants ne veulent pas entendre parler d'une loi sur la sécurité que doit voter demain le Parlement chinois et certains se radicalisent pour dénoncer la tutelle de Pékin. Le reportage à Hong Kong de Florence de Changy.
Il y a déjà un an, quand les premières manifestations ont commencé, les Hongkongais s'étaient mobilisés d'abord et avant tout pour réclamer le retrait du projet de loi sur l'extradition vers la Chine. Mais très vite, les brutalités policières sont devenues un nouveau sujet en soi et les manifestants ont également réclamé une enquête indépendante et des réformes démocratiques. Ils ont aujourd'hui gardé leurs 5 revendications, mais depuis peu, une partie de la jeunesse, désespérée par l'impasse et par les nouvelles mesures de contrôle de Pékin, se radicalise. 3 jeunes diplômés qui sont secouristes volontaires les jours de manifestation expliquent leur évolution.
C'est pour tous les citoyens. On ne peut plus protester, descendre dans la rue, que ce soit de manière paisible ou violente.
Ça veut bien dire qu'il n'y a déjà plus de un pays, deux systèmes. Ils essayent de nous imposer un pays, un système et de faire rentrer Hong Kong dans la Chine.
Ils affirment que l'indépendance est la seule solution pour sauvegarder l'autonomie de Hong Kong. Ils donnent ainsi raison à Pékin, qui les traite depuis le début de séparatistes. sans voir que ce sont ces 12 derniers mois de répression violente et le refus de dialogue des autorités qui ont forcé cette évolution.
Florence de Changy, notre correspondante à Hong Kong. Donald Trump menace de réglementer, voire de fermer les réseaux sociaux. Le président américain ne décolère pas après avoir fait l'objet d'un signalement par Twitter. Deux de ses tweets publiés hier ont été signalés comme trompeurs avec la mention « vérifier les faits ». Les messages de Trump affirmaient que le vote par correspondance était forcément frauduleux. Twitter étouffe la liberté d'expression. Voilà ce qu'a écrit aujourd'hui Donald Trump sur Twitter, justement. Le temps demain restera marqué par des conditions anticycloniques qui écartent les perturbations pluvieuses, du soleil partout avec un petit risque d'orage sur les Alpes et les Pyrénées en fin de journée. Les températures minimales iront de 8 à 17 degrés du Grand Est à la Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 17 et 32 degrés de la Manche au sud-ouest. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.